Salut à tous, c'est Mathieu au micro, le geek de service de Radio Ondine. Aujourd'hui, une émission feel good pleine de soleil et de chaises longues. Au menu, les sorties de la semaine, la cinémathèque, on parlera d'un nanar du Chevalier Noir que l'on adore, le banger de la semaine avec une série qui sent bon la crise de la cinquantaine, et on finira avec un dossier spécial, la santé mentale au cinéma, toujours avec ma playlist du moment, et j'espère que ça vous plaira. Alors allez prendre un truc à manger et à boire, arrêtez-vous sur le bas-côté si vous êtes en voiture, mettez votre téléphone en mode avion, et on vous voit, hein, vous là, ceux qui se font passer pâle pour écouter Plan Séquence. Plan Séquence, ça commence maintenant.
Écoutez, faites très attention.
Plan Séquence, 98.7, 95.2, Radio Ondine.
Et le spectacle continue.
Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
Et comment ça va aujourd'hui? Je vous cache pas que moi, je dois pas être très bien réveillé, hein. Mais bon, bref, j'espère que ça va. Vous êtes bien sur Plan Séquence sur Radio Ondine. Et on va démarrer tout de suite, messieurs, dames. Alors accrochez-vous, asseyez-vous. On va parler des sorties de la semaine.
Les sorties du mercredi.
Sur Radio Ondine, 98.7, 95.2.
Allez, mettez vos ceintures, émotionnelles surtout, parce que cette semaine au cinéma, on ne rigole pas. Enfin, si, un peu. Mais surtout après la séance, une fois que vous aurez retrouvé votre souffle, on parle aujourd'hui de The Hurry Up Tomorrow, le nouveau film du très cérébral et un peu sadique sur les bords, très Edward Shuttles.
La mort n'est rien du tout. Ça ne compte pas. Tout reste exactement
comme avant.
Ce que nous étions l'un pour l'autre, nous le restons.
Donne-moi le nom que tu m'as toujours donné. Invincible.
Je sais que c'est intense, mais j'essaie pas de te faire du mal. Je suis désolée pour tout ça. Je te jure.
C'est quoi ça ?
Shuttles, pour ceux qui auraient dormi pendant les précédents films, c'est le mec qui transforme le simple dîner de famille en séance de psychanalyse sous acide et qui vous fait flipper sans un couloir... dans un... Et qui vous fait flipper avec un couloir vide et une lampe torche. Cette fois, il revient avec un thriller dramatique à haute tension, Hurry Up Tomorrow, un titre qui sonne comme une menace ou une to-do list avec une bombe à retardement. L'histoire, pas question de spoiler, mais disons que c'est un peu comme si un jour sans fin rencontrait Requiem for a Dream dans un ascenseur en panne. On y suit un personnage principal, formidablement interprété d'ailleurs, qui tente de faire quelque chose ou quelqu'un, ou peut-être lui-même. Difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que vous, spectateurs, vous ne fuirez pas l'angoisse. Techniquement, c'est du grand Shuttles, hein, montage épileptique mais contrôlé, bande-son à réveiller les morts ou les voisins endormis, et un sens du détail qui frôle l'obsession. Il n'y a pas une scène où la tension ne monte pas, même quand il ne se passe absolument rien. Et c'est là son talent. Vous vous surprenez à stresser devant une porte fermée ou une tasse à café trop pleine. Ouais, c'est ce genre de film, hein. Mais au-delà du suspense, le film parle du temps qui file, qui oppresse, qui nous écrase. C'est une fable moderne sur l'accélération du monde, l'impossibilité de faire pause ou même juste stop. À la sortie, vous n'aurez qu'une envie, jeter vos téléphones et méditer dans une grotte. Mais bon, là, il y a la queue, il va falloir prendre un numéro. Hein. Mention spéciale à l'acteur principal qui mérite un Oscar juste pour avoir survécu à autant de crises existentielles en moins de 2 heures. Il traverse le film comme un homme, poursuivi par ses regrets, ses erreurs et probablement un très mauvais karma. Hein. Bref, si vous aimez les films qui font réfléchir, trembler et remettre en question toute votre vie, Hurry Up Tomorrow est pour vous un film à voir absolument, mais attention, prenez un calmant léger avant, et surtout un conseil, ne regardez pas votre montre hein, pendant la séance, vous risquez d'y voir votre avenir.
Allez, tournée générale.
La famille. On choisit pas toujours celle qu'on a, mais une fois qu'on en a une, on s'y accroche.
Ça, c'est clair, on
sait. J'ai toujours su que ce jour viendrait.
Tu vas voir.
Ça va tomber.
Ça fait des années que je la maintiens à distance.
Charlie, amène-toi.
Mais cette ordure ne laisse jamais tomber. Elle n'abandonne pas tant qu'elle n'a pas fini. La mort va s'en prendre à toute notre famille.
Avis aux amateurs de sensations fortes, aux phobiques de la vie quotidienne, aux gens qui ont peur de marcher sur une plaque d'égout, un spécial dédicace à Mélo. La mort est de retour. Oui, oui, elle ne prend jamais de vacances, surtout au cinéma. Et elle revient dans un nouvel épisode de la saga qui a traumatisé toute une génération d'adolescents. Destination finale, Bloodlines. Alors, ce n'est pas une rediffusion, ce n'est pas un reboot mollasson non plus. C'est une vraie faux préquelle signée par le duo Zach Lipowski et Adam B. Stein qui s'attaque à un monument du cinéma d'horreur popcorn. Vous vous souvenez, ces films où la mort elle-même, ouais, avec un grand M, un joue à cache-cache avec un groupe de jeunes Cole Myers survivre 5 minutes de trop. Et devinez quoi ? Elle est aussi toujours aussi créative. Échafaudage qui s'écroule, grippin démoniaque, ventilateur tueur. Tout ce qui vous entoure devient soudainement une arme potentielle. Et cette fois, Bloodlines nous ramène aux origines. Qui a lancé cette histoire de prémonition maudite ? Qui a énervé Dame Faucheuse au point qu'elle en fasse une vendetta générationnelle ? Réponse ! Eh ben, vous ne le saurez probablement jamais. Mais le voyage vaut le détour. Côté scénario, on reste fidèle à une formule. Un avertissement surnaturel, un groupe de jeunes à la mâchoire parfaite, un enchaînement d'accidents absurdes mais brillamment mis en scène, et la certitude que la sécurité s'est complètement surfait. Le film ne cherche pas à vous faire réfléchir sur la condition humaine, quoique après la scène de l'accident d'ascenseur, vous penserez peut-être à prendre les escaliers toute votre vie. Visuellement, ça claque, hein, le duo Lipowski-Stein s'éclate avec les effets pratiques et numériques dans une mise en scène qui jongle entre tension, gore millimétré et un humour noir bien dosé. Oui, on sursaute, mais on rit aussi, souvent nerveusement, parfois parce que c'est franchement absurde et parfois parce que, eh ben, on veut pas admettre hein, qu'on vient de bondir de son siège à cause d'un sèchement. Et le casting dans tout ça, hein, c'est solide, hein, des vrais. Visage frais, des cris convaincants et surtout une belle capacité à simuler la panique existentielle. Mention spéciale à ce personnage qui tente de négocier avec la mort comme s'il appelait le SAV d'une box internet. Y aurait pas moyen de repousser un peu là ? Bref, avec Destination Finale Bloodlines, on ne révolutionne pas le genre, hein, bien au contraire, mais on y revient avec panache, un retour aux sources qu'assume à faux son côté grand 8 macabre et qui vous fera voir les objets du quotidien d'un tout autre œil. Spoiler, même votre grille-pain hein, vous veut du mal. Un conseil, asseyez-vous loin des éléments suspendus, regardez bien autour de vous avant d'ouvrir les portes et surtout, ne manquez pas ce petit plaisir coupable. C'est gore, c'est fun, et ben c'est Destination Finale et c'est tout ce qu'on attendait de ce retour sanglant.
Un véritable phénomène.
Les Milli Vanilli sont devenus célèbres du jour au lendemain.
Ils vendent des millions de disques.
Milli Vanilli, des danseurs qui ne savaient pas chanter.
On était les plus grandes stars du monde entier. Comment on en est arrivé là ? Parce qu'on vous a donné exactement ce que vous attendiez de nous.
Ils sont là devant l'écran à se dire, enfin, c'est qui Milli Vanilli ?
C'est parti !
Je cherche pas des nouveaux danseurs. Et je ne cherche pas non plus des chanteurs. Ce que je veux découvrir, c'est des stars.
Quand est-ce qu'on va enregistrer notre version de la chanson ?
On peut aussi essayer le chant, mais ce qui compte avant tout, c'est que vous êtes le groupe.
C'est ce qui rend ce business si particulier, l'illusion.
Parce que le public écoute avec les yeux.
C'est moi, le producteur ! Est-ce que ça rentre dans vos petites cervelles ?
T'as entendu les rumeurs, non ? Tout ça, c'est bidon.
On peut peut-être rencontrer le public et tout leur dire.
Au moins à tous nos amis,
à nos familles.
Où est le problème? Je crois qu'il est maintenant temps de vous montrer qui se cache derrière Milli Vanilli.
Aujourd'hui dans les salles, un film qui fait bouger les têtes mais aussi lever quelques sourcils. Une histoire vraie aussi glamour que tragique. Milli Vanilli, de la gloire au cauchemar, le biopic musical signé Simon Verhoeven qui retrace l'ascension fulgurante et la chute tout aussi brutale du duo le plus controversé de la pop des années 80. Pour ceux qui ne se rappellent pas, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait ça. Girl, you know it's true. Donc là, vous vous souvenez, hein, ces robes et fables, les deux beaux gosses au look de mannequin au déhanché digne d'un clip de MTV. Ils faisaient fondre les cœurs, mais ils avaient un tout petit détail, ils ne chantaient pas, mais pas du tout, pas même une note. Et c'est là que le film prend tout son sens. Hein. Simon Verhoeven ne se contente pas de raconter une affaire de playback, il explore la mécanique infernale du star system. Les rêves brisés, les manipulations de l'industrie musicale et la pression de devoir être une image, coûte que coûte. Derrière les brushings et les vestes à épaulettes, ces deux jeunes hommes paumés, affamés de reconnaissance qu'on découvre, embarqués dans une supercherie qui les dépassait totalement. Le film frappe fort, justement parce qu'il ne juge pas. Il montre la naïveté, l'ambition, la culpabilité et c'est cette chute en direct à la télévision mondiale lorsque le scandale éclate. Un Grammy Awards rendu, des carrières brisées, des vies détruites, ce n'est pas juste une anecdote musicale, c'est une tragédie moderne servie ici avec beaucoup de nuances et d'émotions. Musicalement, c'est un régal pour les oreilles nostalgiques. Hein. Tous les tubes y passent, remixés avec soin, intégrés dans la narration avec élégance. Mais ne vous attendez pas à un clip géant façon Bohemian Rhapsody. Ici, la musique, c'est un miroir déformant, un instrument de gloire et de chute, et parfois un masque qui craque. Les deux acteurs principaux sont incroyables. Ils captent l'innocence du début, l'euphorie du succès et l'effondrement brutal. Mention spéciale à l'interprète de Rob Pilatus, qui incarne avec justesse cette lente glissade vers le doute, la colère et finalement la tragédie. Oui, spoiler, ça ne se termine pas bien, mais vous le saviez, non ? Alors oui, on peut sourire parfois devant les coupe-mulets, les chorégraphies kitsch ou les vestes fluo, mais au fond, c'est une histoire très actuelle, hein, celle de l'image qu'on vend, de la vérité qu'on étouffe et de ce que ça coûte d'être célèbre sans être soi-même. Bref, avec Milli Vanilli, de la gloire au cauchemar, Simon Verhoeven signe un biopic poignant, esthétique et plein de cœur. Un film qui groove, mais qui vous serre aussi la gorge. À voir que vous ayez dansé sur leur hit ou découvert leur histoire dans un même YouTube. Et souvenez-vous, Girl, you know it's true. Gonna know it's true. Bon, le talent, c'est pas ça qu'on voit à l'écran. Hein. Avant de marquer une pause chill et musicale, ce samedi 24 mai, rendez-vous à Médréac pour un événement unique, secret de nature. Cet événement met à l'honneur le bocage breton et la biodiversité. Alors au programme, une émission en direct de 10h à 11h sur Radio Ondine intitulée « Bocage et champs fleuris » avec des experts en géographie, anthropologie et histoire. Et après, à 14h, une autre émission aux racines du bocage où on discutera des impacts du remembrement et des résistances rurales. Il y aura aussi une exposition dont Messicole, Fleurs de Moisson et Observons les oiseaux. Une projection débat d'un film documentaire, une conférence sur l'histoire du bocage et bien sûr une soirée musicale à partir de 20h pour finir la journée en beauté. Et on retrouvera Little Beat Blues Band. L'événement se déroulera à la salle des fêtes et au presbytère de Médréac, donc de 10h à 23h. L'entrée est gratuite, alors n'hésitez pas à venir passer la journée avec nous, nous rencontrer, discuter, parler de biodiversité et de nature. Pour plus d'infos, consultez le programme complet sur secretsdenature.fr. Et l'info de dernière minute, retrouvez le 14 mai, la soirée mélange des genres organisée par le service jeunesse de la Comcom de Saint-Mammès-Montauban au cinéma Le Celtic. Au programme à 19h, un théâtre interactif avec la compagnie La Morsure. Et à 20h30, retrouvez la projection du film Le mélange des genres. C'est ouvert à tous et à toutes et l'entrée est gratuite. On marque une pause avec le premier son que j'ai sélectionné pour vous. Le groupe, c'est, et je suis désolé de mon accent, The Rumpled, You Get So High. Ça sent bon le rock et les guitares qui hurlent et on se retrouve juste après.
Yeah.
La Cinémathèque sur Radio Ondine.
Formidable, c'est formidable.
Aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans la Cinémathèque, on rentre dans une saga que j'aime beaucoup. Et là, on va parler du plus nanar de cette saga. Aujourd'hui, on va parler de Batman et Robin, le plus grand nanar en collant moulant de l'histoire du cinéma. Probablement, et c'est pour ça qu'on l'adore.
Un jour ou l'autre, Gotham City sera le théâtre de l'ultime conflit entre la justice et le mal. Ce jour est arrivé. L'heure est venue. Arnold Schwarzenegger et Monsieur Freeze.
Ne compte pas me mettre au frais.
George Clooney est Batman.
Ta mère ne t'a pas dit qu'on ne joue pas avec les armes?
J'aime pas qu'on bavarde pendant le film.
Chris O'Donnell et Robin.
Dis-le-moi et je t'embrasserai.
Uma Thurman et Poison Ivy.
Embrasse-moi et je te le dirai.
C'est pour ça que Superman bosse seul.
Et Alicia Silverstone et Batgirl.
T'es un danger pour l'image des femmes.
Un cocktail fatal de glace avec un soupçon de venin. Un défi colossal. Pour nos héros en noir. Un film de Joel Schumacher. Batman et Robin.
Bulletin météo du jour. Je vais jeter un froid.
« Ah, Batman et Robin. Sorti en 1997, réalisé par Joel Schumacher, le film qui a fait frissonner, mais pas comme prévu. Hein. Plus qu'un film de super-héros, c'est un défilé en latex, de néon, de jeux de mots gelés et de George Clooney qui semble parfois se demander ce qu'il fait là. Et pourtant, on y revient encore et encore et encore et encore. On commence par l'essentiel. George Clooney incarne Bruce Wayne, donc Batman.
Je suis Batman.
Et oui, ses tétons sont moulés dans son costume. C'est peut-être le détail qui a fait bousculer la franchise dans la parodie. Clooney, beau gosse, hein, en gants en caoutchouc, et a d'ailleurs déclaré lui-même qu'il avait probablement tué Batman. Bon joueur, il assume. Mais il n'est pas le seul dans cette aventure fluo. Hein. Chris O'Donnell revient en Robin.
Je veux une bagnole. Les filles en sont dingues. C'est pour ça que Superman bosse seul.
Toujours aussi adolescent, rebelle. Et Alicia Silverstone débarque en Batgirl, probablement la moins discrète des super-héroïnes de cinéma. Son costume crie « Je suis dans une rêve partie ou quoi ?» Et puis il y a Schwarzenegger en Mr. Freeze.
Laissez-moi briser la glace. Mon nom est Freeze. Retenez-le bien. Parce que je glace le sang et refroidis les humains.
Le seul méchant de l'histoire du cinéma a parlé exclusivement en jeu de mots sur la glace.
Prévision météo, ça va geler.
Qu'est-ce qui a tué les dinosaures ? L'air glaciaire.
Oui, c'est aussi subtil qu'une boule disco dans une église. Ce film, c'est comme si Las Vegas avait eu un enfant avec un Power Rangers et que cet enfant avait pris la tête de la direction artistique. Gotham n'a jamais été aussi flashy. Des statues géantes improbables, des motos qui font des loopings dans des musées, des effets spéciaux criards. C'est un fouillis visuel assumé et parfois on dirait presque un clip de David Bowie sous acide. Et parlons de la bat-carte de crédit. Hein. Ouais, c'est réel. Hein. Batman, justicier masqué et mystérieux, sort une carte bancaire personnalisée avec le logo de la chauve-souris. Explication. Forever, subtilité zéro. Uma Thurman en Poison Ivy joue comme si elle était en tournée de théâtre dans une école primaire, mais avec un budget maquillage à $12,000. Elle minaude, elle souffle des phéromones en paillettes, elle parle aux plantes, c'est presque un spin-off involontaire des Totally Spies. Hein. Et n'oublions pas Bane, le gros costaud muet, qui ici est réduit à un homme courgette, gonflé aux hormones, bien loin de la version philosophico-terroriste qu'on découvre plus tard avec Tom Hardy. Alors oui, le scénario est un capharnaüm, la réalisation est hystérique, les dialogues sont écrits par un robot sarcastique et la morale est floue comme une vie de givrée. Mais tout ça contribue à un plaisir coupable inestimable. C'est le film qu'on regarde en soirée entre potes. Une pizza dans une main, une réplicule dans l'autre.
T'as reçu une invitation ? Qui avec la lumière,
c'est
rentré ?
C'est du grand n'importe quoi, mais c'est du n'importe quoi spectaculaire, avec des cascades absurdes, des chorégraphies dignes des comédies musicales et une ambiance unique, kitsch à mort, mais fière de l'être. George Clooney a tellement honte du film qu'il a remboursé des billets de cinéma à des fans déçus, et c'est vrai de vrai. Hein. Joel Schumacher, le réalisateur, s'est excusé publiquement pour le film. Il a dit qu'il avait trop cédé aux pressions des studios pour vendre des jouets. Le budget costume était plus élevé que celui des effets spéciaux numériques. Oui, les tétons moulés, ça coûte hyper cher. Et ce film a littéralement mis la franchise en pause pendant 8 ans jusqu'à ce que Christopher Nolan récite Batman avec Batman Begins en 2005. Si vous cherchez un film sombre, réaliste et intelligent, fuyez. Mais si vous voulez rire, pleurer de rire et vous demander si Gotham est alimenté à la rêve partie alors que Batman et Robin est un joyau du mauvais goût qui brille fort, mais très très fort, comme une batte lampe disco dans la nuit. Un nanar d'anthologie à regarder sans modération. Et n'oubliez pas, chill out Batman.
Chill en enfer Batman.
Le banger de la semaine. Radio Ondine 98.7 et 95.2.
Aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans mon banger de la semaine, je viens de découvrir, donc elle est encore en cours le visionnage, une série où on retrouve, et ça fait vraiment plaisir de le retrouver, Monsieur Steve Carell, messieurs, dames. Et je vais vous parler de la série Les 4 saisons qui vient tout juste de sortir, c'est tout chaud, tout frais, sorti de ma besace enchantée.
Envoie un SMS à Dany et Claude. Arrivée prévue à 16h31, merci d'être prêt.
Dany dit, tu n'es pas mon putain de chef, on émergera quand la lumière de l'heure magique sera parfaite.
Fais-moi une place.
Monte dans cette voiture.
On est amis depuis 30 ans.
Je vous aime tous. Tous plus.
Pitié, ne nous ressort pas votre autre groupe d'amis super canons là, ça me fait de la peine.
Oh, je sais, ils sont tellement canons.
Est-ce que vous êtes heureux?
C'est quoi cette question, sérieux?
On passe nos soirées dans la même pièce, chacun sur son écran. On est comme des collègues de travail dans une centrale nucléaire.
Ce serait un rêve de me poser quelque part toute seule et de lire tout ce qu'il y a sur mon téléphone.
Tu les connais, non? Se plaindre, c'est leur sport en chambre favori. Oh, ce soleil!
Oh, il va faire chaud sur ce bateau. Oh, ouais. Ça ressemble violemment à une crise de la quarantaine, tout ce qu'il y a de plus classique.
Ok.
Il faut que tu montres un peu de respect à ton père, même s'il porte un débardeur qui laisse entrevoir ses tétons. Tu peux me dire ce qui vous arrive?
Claude est la diva de ses propres opéras.
Je suis italien! Quel genre de mari fait ça, dis-moi?
Celui qui l'interprète actuellement dure beaucoup trop longtemps.
Tina Fey signe une comédie hilarante qui traverse l'année comme nous, en survêt et en crise existentielle. Tina Fey, Lang Fisher et Tracy Wickfield balancent sur Netflix une série comique de 30 minutes qui ressemble à une thérapie de groupe pour gens fatigués, mais qui préfèrent en rire. Les 4 saisons. C'est votre nouvelle série doudou. Sauf qu'au lieu de vous câliner, elle vous regarde droit dans les yeux et dit « Tu veux vraiment faire du yoga en janvier là? T'es vraiment sérieux ?» Et pour que la tempête comique soit parfaite, le casting est en béton. Hein. Donc Tina Fey, en Tina Fey, sarcastique, brillante, toujours à deux doigts de fuir une réunion par la fenêtre. Monsieur Steve Carell, mais quel plaisir de le retrouver. En daron désabusé qui vit chaque équinoxe comme une remise en question spirituelle. Will Forte, en prophète du changement climatique qui porte des sandales en décembre et parle aux oiseaux. Ouais, littéralement. Hein. En gros, c'est un épisode, une crise saisonnière. Chaque épisode correspond à une saison. Et non, pas de Game of Thrones ici, juste la vraie vie. Le printemps, cette arnaque météorologique où tout le monde fait semblant d'aimer les allergies. L'été, où comme on suit en silence dans les transports en prétendant profiter du soleil. L'automne, l'âge d'or du pumpkin spice et des dépressions préhivernales. Et l'hiver, où comment ne plus sentir ses orteils ni ses émotions. Ajouter une galerie de personnages secondaires aussi absurde qu'adorable, un coach de vie qui pleure en lisant l'horoscope, une prof de yoga ultra passive-agressive, une ado qui milite pour que Noël soit fêté en août parce que c'est plus fun. Voilà, vous êtes servis. Le style fait, on le reconnaît en deux phrases. Un ton entre le sarcasme new-yorkais et la tendresse bienveillante, des dialogues aussi rapides que les changements de météo à Paris. C'est brillant, c'est absurde et ça vous colle des barres de rire entre deux constats un peu trop vrais sur la solitude, la parentalité, au fait qu'on ne sait jamais vraiment quand changer de couette. Et comme c'est sur Netflix, pas besoin d'attendre la prochaine saison de votre vie, vous pouvez enchaîner les épisodes en pyjama avec des chips au vinaigre, l'équilibre parfait entre thérapie émotionnelle et gif animé. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'on adore, même sous la pluie? Parce que Steve Carell qui fait un burn-out en ramassant des feuilles mortes, c'est une œuvre d'art. Parce que Will Forte en druide moderne qui invoque le soleil à travers son micro-ondes, c'est ce qu'on ne savait pas qu'on voulait. Et parce que Tina Fey reste la meilleure pour dire des vérités dures avec un sourire passif-agressif. Verdict. Un concentré de rire saisonnier à consommer en toutes circonstances, sauf canicule, hein, faut boire de l'eau d'abord quand même. Les 4 saisons et la série Netflix qu'on regarde pour rire des trucs qu'on vit tous, mais raconté par des gens plus drôles et mieux coiffés que nous. C'est fin, c'est décalé, c'est un peu triste parfois, mais ça fait du bien. Alors sortez les plaids, les glaces, les ventilateurs ou les bottes de pluie selon l'humeur du ciel et bingez cette perle comique sans modération. Et rappelez-vous, peu importe la saison, tant qu'on a Tina Fey, on est bien. Et ça, c'était mon banger de la semaine. On poursuit en musique avec The Goat, même un duo de Goat, les gars. Du rap français, on va écouter Cynic feat Medine. D'ailleurs, Medine vient de sortir un projet, c'est très lourd, avec les 16 vérités. D'ailleurs, restez connectés sur Raw Music cette fois, car on va vous faire gagner des places pour aller voir Cynic en concert. Alors rendez-vous sur Insta et tentez votre chance.
Tu sais ce qu'on dit? Une balle dit toujours la vérité. Elle ment jamais.
T'as passé toute ta vie à parler du placard. Le mythe qui vient du mitard, en chialant plus que vita. Voilà ton reflet, tu fuis devant les miroirs. En vrai t'as rien d'un exemple, offrir des mots sont vexants. Oublie que certains mômes qui t'écoutent sont des écoliers. Tu ne parles que de la thèse, de la tôle et de ses tauliers. Écrire contre la police, pleurer, ça tu l'as bien fait. En clair t'es comme les autres frères présents, mais tu n'as rien fait. Ni blanc ni maghrébin, au bled tu serais trop mal. Dis-moi t'en connais grave, des rebeux qui s'appellent Thomas. Triste connard, t'as cru qu'on était qui toi pour croire à tous ces trucs. Toi l'intrus de Ryan B. 3, certains t'ont mis au défi. Où es-tu passé? 3 ans qu'on t'entend plus, qu'on se demande si t'as pas clamé. Pourquoi le carton rouge ne sort pas? Pourquoi tu dis rien? À croire tu fais la tentouse. Dommage car on l'attend tous. Tu t'es caché derrière ton cynisme. Plus la capuche pour la vie. Stevie Wonder gère ton stylisme. Reprends-toi vite, les gens attendent de vrais textes. Le foot on s'en balance car Paris, la France te déteste. Ouais tu nous as saoulés, tu perds du galon. À vous je te l'avais dit, dégonflé sera ton ballon. T'as cru que ton public te suivait. Vrai, au ciel étoilé, la classe t'a fait comme James, mec, la face tu te l'es voilé. Père de famille, cool selon ses humeurs. Papa n'est pas un gangster, t'inquiète, juste un fumeur. Je sais ce que tu vas dire, il en faut pour pondre des couplets. Méfiant et parano, c'est du monde que tu t'es coupé. Les nœuds de la justice, de la drogue, de leurs alliés. Balaye devant ta porte avant de parler de leur palier. Oublie le sens de bonhomme, ce mot me paraît old school. Admettre qu'on a fait fausse route, c'est ça, avoir des grosses couilles. T'es faux, t'es faible, que tes concepts ils sont plagiés. Qu'importe les raisons, y'a pas de mérite à se laisser clasher. T'as perdu mon estime le jour où t'as laissé Nesbill marcher sur ton style, soi-disant par prof de modestie. On change pas le monde avec un morceau de rap. De toute façon c'est haram, tu ferais mieux de rejoindre Fab. Tu parlais de bled sans même y avoir mis les pieds. T'es le champion à contester, tu fais ce que je dis mais fais pas ce que je fais. Révolutionnaire pour le compte de ta caisse. Demande aux Black Panther si leur t-shirt coûtait la peau des fesses. Tu t'enrichis sur le dos de la religion. Les boucs de ta région attendent-moi ton aide que de prendre l'euro million. Rase-moi cette barbe, tu fais honte à la sunna. Tu fais honte à la Ouma. T'es qu'un muslim sous-marque. Change de patronyme, tu salis l'image de la ville sainte. Le rap conscient est dead avec Ahmed Didat en 2005. Franc-maçon de formation, la bouche pleine de mensonges. M'a-t-on dit que t'es plus faux que Rick Ross et tes matons. Tu fais la leçon à chaque chanson, donne le cours à chaque track. T'oublies que l'Elysée Montmartre n'est pas un amphithéâtre. Non, ton panique n'est que la peur par la peur. T'as piégé tes auditeurs comme au cœur de Pearl Harbor. T'as rien d'un leader, un minable pour mineur. Incapable de faire des tubes que des morceaux d'une demi-heure. On peut tromper une fois mille personnes mais pas mille fois la même. Il faut l'admettre, tes mixtapes n'ont pas mille feux à la plèbe. T'auras jamais de disque d'or avec ce genre de discours. Laisse courir car les légendes n'ont pas les jambes qui se courent. Hey, assume-moi ou brise-moi, c'est tant de malheur tu auras. Autocritique morale, j'ai rien qu'un miroir pour tu t'auras. Un jour tu me tueras d'un coup de mic dans la vitraille. Au cœur de la galerie des glaces du Castle de Versailles.
Le top de la semaine.
Aujourd'hui dans le dos de la semaine, on va parler de la santé mentale au cinéma, ces histoires qui nous ressemblent, même quand elles dérapent. Parler de santé mentale au cinéma, c'est comme essayer de monter une étagère Ikea avec une notice floue, des pièces en trop et une vis qu'on retrouvera jamais. C'est bancal, souvent incomplet, parfois agaçant, mais quand ça tient debout, c'est beau et utile. Pendant longtemps, la santé mentale a été le grand méchant flou artistique du grand écran. Soit on en faisait des drames tragiques où tout le monde finissait en camisole, soit des thrillers où les troubles psychiques devenaient prétexte à des meurtres sanglants. Spoiler, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais depuis quelques décennies, le cinéma commence à changer de ton. Moins de clichés, plus de nuances, moins de monstres, plus d'humains. Et surtout, une volonté de représenter les fragilités mentales comme des réalités vécues, pas comme des coups de théâtre pour relancer l'intrigue à la 42e minute. Ce qu'on voit aujourd'hui au cinéma, ce ne sont pas seulement des maladies, mais des parcours. Des gens qui vacillent, qui s'effondrent parfois, mais qui avancent parfois à reculons. Parfois en faisant une chorégraphie dans leur salon, parfois en criant sur un pigeon. Le cinéma moderne ose désormais montrer que la dépression n'a pas toujours de cause identifiable. L'anxiété peut ressembler à un feu d'artifice dans la tête. Le trouble bipolaire n'est pas une comédie de saute d'humeur, la schizophrénie n'est pas un effet spécial sonore et que vivre avec ça demande souvent plus de courage que n'importe quelle scène d'action avec des explosions. Mieux encore, on commence à raconter la santé mentale sans forcément vouloir la guérir, mais plutôt l'habiter, la comprendre, vivre avec. On passe du drame à la chronique, du pathologique au personnel. Certains cinéastes, comme dans Les 4 saisons, par exemple côté série, choisissent l'humour comme arme douce. Et la magie, on rit de choses graves, mais on les minimise pas. On les reconnaît, on les regarde autrement. Le rire dans ces récits-là n'est pas une fuite, c'est une lucidité douce. Le rire d'une personne qui sait que tout va mal, mais qui a quand même mis un pull assorti à son humeur pour y faire face. Prenez Mafia Blues de 99, un film où Billy Crystal incarne un thérapeute qui doit gérer un patient interprété par Monsieur Robert De Niro, ancien mafieux mentalement perturbé par la retraite. On y trouve une dynamique unique entre un thérapeute dépassé et un homme de pouvoir déstabilisé où les conflits intérieurs sont à la fois tragiques et hilarants. Ce film, Rire et psychanalyse, montre comment l'humour peut alléger les angoisses existentielles tout en mettant en lumière des réalités psychologiques intenses. Autre exemple, Un jour sans fin de 93, avec encore le très grand Bill Murray, revit la même journée encore et encore avec l'impression d'être pris dans un cercle vicieux d'ennui et de désespoir. C'est pas un film qui parle directement de la santé mentale, mais il explore les effets de l'isolement et de la dépression à travers la répétition infinie d'une journée sans fin. Le personnage de Murray est bloqué dans un état psychologique similaire à celui de quelqu'un qui est pris dans une spirale dépressive où il doit faire face à ses propres erreurs pour se libérer, en tout cas bien sûr dans une comédie absurde. Et ça, je suis sûr que vous avez jamais fait le lien avec ça. L'une des avancées les plus précieuses, les troubles mentaux ne sont plus réservés aux personnages excentriques. Désormais, ce sont des parents débordés, des ados silencieux, des cadres au bord de la rupture, des artistes écorchés, des voisins qui parlent de tout, qui parlent tout seuls dans l'ascenseur. Autrement dit, des gens normaux, des gens comme vous et moi, des gens comme nous tous. Prenez Happiness Therapy de 2012 avec Bradley Cooper, où il joue un homme bipolaire cherchant à se reconstruire tout en nouant une relation improbable avec Jennifer Lawrence, une jeune veuve en pleine reconstruction elle aussi. Ce film ne met pas simplement en avant un trouble psychologique, il explore surtout l'impact des relations humaines dans le processus de guérison. C'est une histoire qui nous dit que la santé mentale se travaille collectivement, avec beaucoup de hauts et de bas, mais aussi de moments extrêmement lumineux. Dans Lars and the Real Girl en 2007, un homme timide et introverti incarné par Ryan Gosling vit une relation avec une poupée réaliste. Ce film utilise la santé mentale pour aborder l'isolement, la difficulté d'accepter la réalité de la perte et de la dépression. C'est une réflexion touchante sur l'acceptation de soi, l'aide de la communauté et la manière dont la folie douce permet à certains de guérir. C'est aussi un film qui démontre qu'il est parfois nécessaire de chercher de l'aide là où on ne l'attend pas et que les solutions peuvent être aussi étranges que réconfortantes. Ce que font ces films, au fond, c'est ça. Ils nous autorisent à ressentir, à dire qu'on ne va pas bien, à voir quelqu'un tomber sans vouloir tout de suite la relever à coups de phrases toutes faites. Ils nous montrent qu'il n'y a pas toujours de message d'espoir, pas de grande morale, parfois juste un peu de mieux et c'est déjà énorme. Ce sont des histoires comme The Banshee of Inisherin, où l'on suit la rupture d'amitié entre deux hommes, l'un d'eux incarné par Colin Farrell, sombre dans une dépression profonde après que son ami ait soudainement décidé de l'ignorer. C'est une exploration subtile de la solitude, de la rupture et de la santé mentale, mais aussi une manière d'explorer comment les petites blessures émotionnelles peuvent se transformer en gouffres mentaux si elles sont laissées sans réponse. Un film émouvant, absurde, où les rires et les larmes s'entrelacent. Conclusion, le cinéma ne sauve personne, mais il éclaire. Il tend un miroir, parfois déformant, parfois cru, parfois magnifique. Il dit « Toi aussi, hein ?» Et dans ce « un », il y a du réconfort. Il faut encore progresser, encore plus de diversité, encore plus de voix, encore plus d'histoires sans stigmatisation. Mais la route est lancée. Et si on peut traverser nos saisons mentales comme dans une série douce amère avec un peu d'ironie, de tendresse et de courage, alors peut-être que le cinéma peut être ce compagnon qui ne juge pas, mais qui écoute. Un peu comme un psy, mais avec du popcorn. Et voilà, c'est déjà la fin de ce numéro, la team. Mais comme on dit toujours par chez nous, le cinéma, c'est un amour qui ne s'éteint jamais. Alors on se retrouve très vite, même fauteuil, même écran, et bien sûr, les discussions à n'en plus finir. En attendant, notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas, le replay est disponible à volonté sur notre site radioondine.fr, sur les autres plateformes de streaming et sur les réseaux. Et c'est là que ça se passe. Abonnez-vous à notre Insta pour toute l'actu ciné, les pépites à gogo, des concours qui vous feront repartir avec des cadeaux dignes de vos rêves de cinéphiles. ou pas. Et cette semaine d'ailleurs, un super concours pour gagner des places de ciné avec notre partenaire, le cinéma, le Celtic de Saint-Main. Alors pour tenter votre chance, répondez à notre question du jour sur les réseaux sociaux. Dans quel film de 1994, Bill Murray se retrouve-t-il coincé dans une boucle temporelle, revivant sans cesse la même journée? C'est pas trop dur, hein? Promis, j'ai fait une facile. Pour participer, donc rendez-vous sur les réseaux sociaux de Plan Séquence et laissez-nous votre réponse en commentaire. Alors ne perdez pas une minute. On se quitte en musique avec une artiste que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir dans le prochain épisode de Raw Music. Et ouais, on va la recevoir ici dans les studios. Vous aurez la chance de pouvoir en savoir un peu plus sur elle et surtout de profiter d'un live acoustique. En studio, on va écouter Chloé avec son titre « À l'aube de l'écorchure ». Et rappelez-vous, la règle numéro 1 chez nous, c'est de remplir vos cinémas, de partager votre coup de cœur et de faire vivre la magie du grand écran. Et surtout, n'oubliez pas le pop-corn.
Salut, c'est Léman, retrouvez-moi sur Radio Ondine 98.7 et 95.2. On a fleuri le béton, les déserts, au milieu des dunes.
patiemment, voir si l'on compte vraiment. On attend que tu sois là trop souvent. C'est dans ton verre que tu te noies. T'es plus le même quand tu bois, papa. Tu me manques, je m'en vois en toi. Dis-moi comment faire de mon mieux avec ça. Oui, j'apprends tout seul à être grand. Non, je ne veux pas devenir comme toi. Tu vas au rhum quand rien ne va. Pourquoi ça tombe sur toi? Consoler ma peine et que tu dises enfin que tu m'aimes juste un peu, rien qu'un peu.